réseau Cogeco. Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Avec Yannick Bouchard.
Et nous sommes là jusqu'à 18h30, jusqu'au match de l'Impact contre le Sporting de Kansas City. Ensuite, ce sera le match des Alouettes contre les Rough Riders en Saskatchewan. Et demain, je vous rappelle l'émission spéciale à midi animée par Martin McGuire sur le marché des joueurs autonomes. On attend toujours de voir qu'est-ce que Marc Bergevin va faire lors de cette journée. On sait déjà qu'il a fait l'acquisition de l'attaquant Joel Armia. Le gardien Steve Mason, un choix de 7e tour au repêchage de 2019 et un choix de 4e tour en 2020 des Jets contre le défenseur Simon Bourque. Plus tard, le Canadien a soumis le nom de Mason au balotage dans le but de racheter son contrat parce que Mason devait empocher 4,1 millions de dollars en 2018-2019. Donc, ça signifie que le salaire de Mason va compter pour 1 366 667 dollars au cours des deux prochaine campagne. Je sais pas comment a réagi mon ami Philippe Quentin lorsqu'il a appris cette transaction ce matin. On lui parle immédiatement. Salut Philippe.
Salut Yannick.
Alors Philippe, quelle a été ta réaction? Est-ce que la reconstruction se poursuit?
Oui, la reconstruction se poursuit. Peut-être qu'elle commence.
Elle commence, oui.
Ça serait déjà un choix intéressant parce qu'à l'heure actuelle, on a l'impression que chez le Canadien, c'est un peu de la navigation à vue. Là. On réagit plus qu'on prépare ou qu'on fait un plan. On a beau dire qu'on a un plan, disons qu'il ne paraît pas toujours évident. Mais tu sais, je regarde cette acquisition-là aujourd'hui, puis je regardais cet après-midi un peu partout les réactions, puis les réactions sont positives. Et avec raison, le Canadien cède un joueur de Ligue américaine là, qui n'avait pas véritablement de chance de percer la formation de la Ligue nationale. Se sert de l'espace disponible sur le plafond salarial pour prendre le mauvais contrat du gardien Mason de Winnipeg. Et là, va chercher un attaquant. Et bon, c'est là qu'on voit, par exemple, jusqu'à quel point, Yannick, le Canadien est mal pris. Parce que tout le monde est d'accord. Ça va peut-être aider le Canadien. On parle pourtant pas d'un joueur qui a une feuille de route à tout casser. Là. Il a quand même joué l'an dernier 79 matchs
exact.
Avec une des meilleures équipes de la Ligue nationale, donc de la durabilité, certainement un plus. Ça. 12 buts, 17 passes donc pour Joel Armia au sein d'une très bonne équipe. Il a joué un petit peu moins en séries éliminatoires. Cependant, quand tout à coup l'entraîneur a eu à faire des choix, ben c'est pas lui nécessairement qui a été choisi. Puis en plus, on le voit, là, si les Jets veulent décident de sacrifier un joueur, c'est lui qu'ils choisissent. Alors donc, il faut quand même relativiser sa force et sa puissance. C'est quand même un joueur qui est un peu laissé aller par son ancienne organisation. Mais le Canadien est mal pris. Le Canadien a besoin de 109. Le Canadien a besoin d'un peu d'énergie. Alors arrive ce gars-là de 25 ans, gros gabarit, 6 pieds 3, 205 livres pour une équipe qui est un peu petite à l'attaque. Alors écoute, souhaitons que ça fonctionne. Le risque est nul. Là. On a simplement pris un peu d'argent sous le plafond salarial pour assumer le contrat de Mason qu'on rachète aux deux tiers de sa valeur. Puis le deux tiers, évidemment, selon les termes de la convention collective, il va être divisé en deux portions d'une année. Donc, c'est pas une masse, c'est pas un gros montant, tu viens de le mentionner, là, un peu plus $1 million. Alors, c'est un risque qui est intéressant, mais je trouve aussi que le fait que cette nouvelle-là, tu sais, tout le monde, waouh, tu sais, pas waouh, mais quand même, c'est le fun, un nouveau joueur qui arrive et tout, ça en dit long aussi sur l'état du Canadien à l'heure actuelle. Maintenant, et si jamais ça devenait un autre Paul Byron, tout le monde serait bien content.
OK. Ça signifie également, cette transaction-là, Philippe, possiblement que Paul Stachny sera de retour avec les Jets de Winnipeg,
ouais.
Parce que les Jets font inévitablement de la place pour permettre à Stachny de signer, mais on n'en est pas là encore.
Non, on n'en est pas là encore.
Mais ça ressemble à ça pas mal.
Ben oui, c'est sûr, parce que là, il doit y avoir des joueurs et des agents de joueurs qui ont commencé à donner des indications là, aux équipes. OK, on est prêt à signer de nouveau avec vous, ou on est prêt, ou on va plutôt, merci beaucoup, mais on va aller ailleurs. Et tu sais, Stachny a beaucoup apprécié la fin de son séjour à Winnipeg. Je voyais qu'à Winnipeg, il a fait une déclaration récemment pour dire comment il avait aimé ça et comment il avait été heureux avec le recul de son échange là, qui l'a conduit de Saint-Louis à Winnipeg. Puis à Winnipeg, évidemment, ça ça fait bien plaisir aux gens. Parce qu'on le sait, quand tu te retrouves avec les Jets de Winnipeg, ça fait pas le bonheur de tout le monde. Cette année, plus tôt en janvier, il y a deux joueurs des Sharks de San Jose qui avaient eu des commentaires vraiment pas très gentils à l'endroit de Winnipeg, un peu moqueur, un peu près d'être méprisant. Et d'ailleurs, ils avaient été superbement remis à leur place par Paul Maurice, l'entraîneur des Jets de Winnipeg, qui avait dit, moi, je pense que quand tu peux jouer dans la Ligue nationale, c'est un honneur, puis peu importe la ville, tu dois être très heureux d'être là. Tu as une vie extraordinaire, profite-en, puis arrête de parler contre les autres villes. Et il avait vraiment très bien fait ça. Mais il y a beaucoup de joueurs, quand ils vont à Winnipeg, on dirait que les préjugés partent un peu. Souviens-toi de Dustin Byfuglien, quand il a eu l'occasion de partir comme joueur autonome. Non, il a décidé de signer un contrat à long terme là-bas. Lui, c'est un gars qui aime bien la nature et tout, donc il était heureux. Les lacs, puis bon, etc. Il était très heureux du style de vie que Winnipeg lui permettait de vivre. Alors là, tu vois un gars comme Paul Stachny, il est rendu à 32 ans. On verra bien quelle sera sa décision finale. Il y a un indice aujourd'hui qui va peut-être rester là. Oui. Mais pourquoi ne resterait-il pas là? S'il veut gagner la Coupe Stanley, là, y a-t-il une meilleure place que Winnipeg à l'heure actuelle? Il y en a d'aussi bonnes, mais de meilleures, je suis pas sûr.
OK. Là, Tavares a même pas daigné parler aux Canadiens, Philippe.
Non.
Paul Stachny va possiblement rester avec les Jets. C'était le deuxième joueur autonome le plus attrayant chez les joueurs de centre, je te parle. Mm-hmm. Là, tu regardes les joueurs de centre qui restent. T'as Tyler Bozak, t'as Plekanec qui veut revenir. Il y aurait un accord commun, il y a un intérêt commun entre le Canadien et le clan Tomáš Plekanec. Rien pour transformer ton équipe. Je parlais à Benoît Brunet en début d'émission qui me disait « J'ai hâte d'entendre Marc Bergevin dans 24 Bon, peut-être pas 24, mais 48, 72 heures quand la folie du marché des joueurs autonomes va s'estomper pour expliquer les décisions prises au cours des dernières semaines. Est-ce que tu penses qu'il va être transparent ce coup-là?
Ben, ce que je pense qu'il va être transparent, il va essayer de placer les événements sous leur meilleur jour de son côté, et puis il va nous dire qu'il y a des joueurs qui voulaient tout simplement pas venir à Montréal. Il l'a dit d'ailleurs déjà dans le passé, le 1er ou le 2 juillet, là, dans un de ses points de presse qui suit ce moment très important dans la saison de la Ligue nationale. Il avait dit, écoutez, il ne faut pas se le cacher, il y a des joueurs qui ne veulent pas venir jouer à Montréal. Mais quand tu réussis même pas à convaincre un gars comme Tavares de t'écouter, d'entendre ce que tu serais prêt à lui proposer.
C'est incroyable.
Hey, ça fait mal, surtout quand le propriétaire de l'équipe, dès le tournoi de golf au mois de septembre l'an dernier, a dit, hey, il l'a pas dit de même, mais ça voulait dire on est intéressé. Il dit, Marc et moi, on parle de John Tavares. Alors, c'était clair que quand c'est le propriétaire qui le dit qu'on en parle dans le bureau un an avant, c'est qu'on avait les yeux sur lui. Puis là, arrive le moment où on peut faire notre pitch. Puis tu sais, on a entendu toutes sortes de shows. Pat Brisson, il est bien ami avec Marc Bergevin, tout ça. Mais ouais, regarde, ça délimite tout ça. Là. Et donc, on le voit que c'est assez dur. Et là, tu sais, on parle de s'il n'y aura pas de Tavares, si Paul Stachny, si ça se confirme, puis il va à Winnipeg, on verra bien. Là, on n'essaiera pas de deviner les événements, mais disons que manifestement, les Jets veulent gagner de l'espace sous le plafond salarial. C'est ce qui explique la transaction avec le Canadien aujourd'hui. Donc, ça semble vouloir à tout le moins donner une indication assez claire dans ce sens-là. Alors c'est quoi? Là, tu vas ramener Tomáš Plekanec. Alors ça, Plekanec, il y a beaucoup de gens qui disent encore, avec raison, pour un contrat de très courte durée, un an, et puis un salaire beaucoup plus modeste, évidemment. Bon, peut-être que ça a du bon sens. Puis peut-être qu'au point de vue hockey, il peut venir occuper un rôle de quatrième centre. Et puis peut-être que s'il n'y a pas de mauvaise saison, peut-être que tu peux l'échanger encore à la date limite des transactions l'an prochain, puis d'aller chercher peut-être cette fois-là un choix de troisième ou quatrième ronde. Je ne le sais pas, puis peut-être que ça peut se défendre. Mais je trouve, Yannick, qu'au niveau de l'image, au niveau du message que ça envoie, ça serait pour moi un genre de constat d'échec de ramener Plekanec. Ça veut dire que tu n'es pas capable de renouveler ton équipe au centre, que finalement, ta seule solution, là, ça a été d'aller rechercher ton ancien joueur que tu as laissé aller l'an dernier, que tout le monde trouvait qui était surpayé, qui remplissait un peu de service défensivement, mais qui était manifestement plus le joueur qu'il a déjà été. Puis là, tu dis, hey, ça va être lui... Je pense pas que le Canadien nous dirait que ce serait lui la solution, mais il va venir remplir un besoin. Alors, le message que ça envoie, là, ça veut dire qu'on fait du surplace. Là. Ça veut dire que c'est le message du surplace.
Oui, puis le message que ça envoie aussi à un gars que tu as repêché en 2013, Jacob Delarose qui est là, qui essaye de se tailler une place. Puis tu sais, je veux dire, je suis pas le plus grand, je suis pas un ardent défenseur de Jacob Delarose, mais on lui a-tu vraiment donné de véritables chances de se faire valoir avec le Canadien? Parce que si Plekanec arrive au camp d'entraînement, les deux vont possiblement se battre pour le même poste de quatrième centre.
Ouais. Et à la limite, t'es mieux de développer le plus jeune, puis espérer, parce qu'il avait pas mal commencé, lui, dans la Ligue nationale. Souviens-toi, quand Michel Therrien était l'entraîneur, il avait été pas mal. Est-ce que ça convenait mieux avec Therrien dans son cas, je ne sais pas, mais chose certaine, il avait fait bonne impression au début, puis là, tout à coup, ça s'est malheureusement pas développé au rythme où tout le monde et lui-même, sans doute, le souhaitait. Ouais. Mais, tu sais, il en reste pas moins que c'est un gars qui a du potentiel, puis on le sait que jouer au centre, c'est plus difficile, mais ça revient à une autre question, un autre problème, je pense, avec le Canadien. Puis c'est drôle parce que Marc Bergevin l'a abordé dans son point de presse. J'étais là quand il a commenté la transaction de Max Domi contre Alex Galchenyuk. Puis tout à coup, ça parlait justement de ce fameux poste de joueur de centre. Mm-hmm. Puis là, il y a un collègue qui lui demande « Ouais, mais Galchenyuk, semble-t-il, qui va jouer au centre là-bas en Arizona. » Puis là, Bergevin, évidemment, ne veut pas trop, avec raison, se prononcer là-dessus. Il dit « Écoute, chaque organisation a ses choix. » Mais grosso modo, ce qu'il dit, c'est que les attentes envers un joueur de centre sont peut-être pas les mêmes partout. Puis moi, des fois, je me demande, Yannick, si les attentes au niveau d'un joueur de centre pour le Canadien, si c'est pas rendu démesuré. On a Galchenyuk, centre-ailier, oui, non. Tu sais, ça a été comme ça pendant des années. Drouin, on va le mettre au centre. Puis finalement, non, Bergevin nous dit en fin d'année, non, c'est un ailier. Mais je me demande, est-ce qu'on va en laisser un vraiment s'épanouir au centre? Est-ce qu'on est prêt à vivre avec les erreurs d'un jeune joueur de centre? Je suis pas convaincu parce qu'on avait dit avec Galchenyuk, oui, on l'avait annoncé au terrain de golf. Tu te souviens, au tournoi de golf, il y a 2 ans, là, il y avait une conversation entre son nouvel agent à l'époque, Pat Brisson et Marc Bergevin. OK, on va lui donner une chance au centre. Puis il va commencer l'année au centre, puis tout ça. Puis ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré longtemps. Là, à Noël, c'était terminé depuis longtemps, cette expérience-là. Je me demande si on n'en demande pas trop, si on n'a pas un portrait un peu idyllique du joueur de centre, puis on dit, il faut vraiment qu'il soit capable de tout faire, alors qu'on n'a pas les joueurs pour faire ça. Alors, peut-être qu'on serait mieux d'être plus patient, puis d'essayer d'en développer un peu, puis d'être capable de vivre avec les erreurs d'un jeune joueur, d'essayer de se donner confiance. Mais ça n'a pas l'air d'être dans l'ADN de l'organisation. Puis tu te dis, mais pourquoi? Parce que s'il y avait beaucoup de succès, tu dirais, oui, on peut comprendre. Écoute, ils font cette stratégie-là, puis ça marche, ils font une série, puis ils sont bons. Mais non, ils ne sont pas très bons. Ils n'ont pas des bonnes saisons. Ça ne va pas très bien. Une série éliminatoire en 3 ans, Yannick, une. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Tu as mentionné un mot très important, la patience. Et à Montréal, la patience n'est pas un mot très à la mode. On préfère l'attitude et des fois la transparence, mais la patience, ça prend des résultats de
match. La transparence, ça, c'est une promesse pour la saison prochaine.
Oui, OK.
On nous a dit que c'était pour 2018-2019.
Okay. On est entre deux, là, d'abord.
Oui, c'est ça, on est dans l'entre deux. Là.
OK, parfait. Hey, Philippe, toujours un plaisir, puis on regarde ce qui va se passer.
Oui, mais, écoute, ça va être assez passionnant.
T'attends-tu à quelque chose d'extraordinaire?
Où Tavares va partir. Ouais.
T'attends-tu à quelque chose?
J'ai comme l'impression qu'il ne restera pas avec les Islanders. Je sais pas si tu vois ça, toi, mais il me semble qu'il aurait rendu sa décision.
Moi,
si ça avait été avec les Islanders.
Quand j'ai vu aujourd'hui la prolongation de contrat de Logan Couture avec les Sharks de San Jose, 8 ans, je pense, 8 millions par année, je me suis dit, et les Sharks ont encore de l'espace sur le cap salarial.
Ouais.
Je me dis, est-ce qu'on s'active à prouver à Tavares, garde, tu vas avoir un bon club, là?
Ouais. T'aimes pas B aussi. Toute une équipe de hockey.
Exact.
Là. Un club de hockey, t'aimes pas B aussi. Alors, il y a des belles perspectives devant lui. Puis là, tu regardes ça, puis lui, il mesure ça face à Long Island.
Ah oui.
L'édifice, c'est pas vraiment réglé. Ils vont jouer la moitié de leurs matchs locaux dans un aréna, l'autre moitié dans l'autre aréna. Je sais pas. Lui, là, il doit regarder ça et dire, est-ce que c'est vraiment là? Peut-être qu'au fond, c'est là qu'il va décider puis qu'il va se montrer loyal envers cette organisation-là.
Peut-être.
Mais tu sais, j'ai très, très hâte d'avoir son choix.
Et rapidement, chez le Canadien, tu t'attends pas à quelque chose d'extraordinaire demain, là? C'est pas...
Non, pas vraiment. Je crois pas. Et on verra. Des fois, on peut être surpris, mais je regardais un peu les joueurs que le Canadien va chercher. Quand ils ont décidé d'investir un peu davantage, comme dans le cas de Carl Arlsner, ça n'a pas été couronné de succès. Alors peut-être qu'encore une fois, la prudence dans ce cas-ci est de mise.
OK. Puis à chaque... puis on va se rappeler de ça, là. En novembre puis en décembre, on va parler des joueurs autonomes de 2019. Ah, puis il va en avoir des est bon, puis le Canadien va être dans la course, puis on va se reparler possiblement dans un an, puis le Canadien sera sans doute pas une équipe prisée par un de ses joueurs.
Je pense que là, tranquillement, il y a une... Si tu permets, j'ai encore 30 secondes.
Vas-y.
On dirait que de plus en plus, là, puis je le sens dans le public, je le sens chez les commentateurs, je pense que si le Canadien arrivait aujourd'hui puis disait « on va reconstruire, on va prendre le temps que ça va prendre », je pense que les gens aujourd'hui l'accepteraient, alors que le 2 ans, peut-être qu'ils ne l'auraient pas accepté. Je pense qu'ils l'accepteraient parce que là, les gens commencent à voir avec Kotkaniemi, avec Poehling, là, ils disent « coudonc, peut-être que c'est vrai que dans 3-4 ans, le Canadien va être bon, peut-être qu'il va avoir vraiment une équipe que ça va être sur la montée ». Alors, accentuons ce côté-là, vivons nos années de misère, faisons comme les Maple Leafs de Toronto. J'ai l'impression que ça passerait mieux et peut-être que le Canadien devrait un jour opter pour cette voie-là.
Je serais le premier à applaudir Marc Bergevin s'il disait ça dans 48-72 heures.
Je pense pas qu'ils sont rendus là comme organisation.
Je sais. Merci Philippe. Bonne
Salut.
Soirée. Salut bien. À bientôt. OK, on s'arrête. Martin McGuire au retour et à ne pas barater également dans une quinzaine de minutes. Il y a Bruno Eppel qui va nous parler des Alouettes qui affrontent les Rough Riders en Saskatchewan.